Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous nous rendons aujourd'hui à la ferme du Juncas, où nous y attend Guillaume, un paysan engagé dans la réfection d'une agriculture en phase avec son territoire. Bonjour, alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Ben, je m'appelle Guillaume Delette, je suis à la ferme du Juncas, dans la commune de Mont-Laure, en plein milieu du Rougier.
Sur la commune du Mont-Laure. Et alors, quelle est ton exploitation ? Qu'est-ce que tu produis, toi ?
Eh ben, je produis toutes sortes de produits transformés, du pain, de la farine, des lentilles, de l'huile.
C'est toi qui fais la matière première, puis tu la transformes, ou tu fais que transformer une matière première ?
Je transforme plus ou moins tout ce que je produis.
D'accord.
Donc je cultive tout ça, je cultive des céréales, des légumineuses alimentaires ou non alimentaires, du tournesol, de la caméline, qui est une petite oléagineuse, une petite crucifère. En tout cas, le souci, c'est d'essayer de penser une agriculture... Enfin, une rotation des cultures qui soit la plus complexe et la plus complexe possible pour minimiser le travail du sol et en même temps produire tout ce dont on a besoin. Et pour le moment, c'est du végétal, quoi. Mais c'est pas un parti pris, c'est parce que j'ai commencé par là, quoi.
Donc toi, ça fait combien de temps que tu es agriculteur ?
Ça fait depuis 2014.
2014. T'as grandi là-dedans ou tu es venu un peu...
Bah, ça a sauté une génération.
D'accord.
Comme beaucoup.
T'avais un autre métier avant ?
J'ai fait pas mal de trucs, ouais.
D'accord.
Ouais.
Et alors, qu'est-ce qui t'a fait... Pourquoi t'es venu à faire de l'agriculture et pourquoi celle-là ?
Parce que je voyais que ce moyen-là de mettre fin à la destruction de la planète, quoi. Je voyais que cette piste-là, et j'ai besoin de pistes concrètes, moi, j'ai toujours eu besoin de pistes concrètes.
Ouais.
Avant, je faisais des enduits terre, enfin, je faisais de l'éco-construction, et je cherchais comment construire des maisons le plus localement possible. Et en fait, c'est un peu le même...
Même raisonnement.
Ouais, le même enchaînement. Disons que ça m'a toujours préoccupé depuis le combat contre les OGM quand j'avais 20 ans. Et en fait, j'ai toujours fréquenté une agriculture, disons, paysanne et qui essaye d'inventer une autre façon de faire, de produire des aliments et même... de construire un monde, quoi.
Et au Juncas, tu y es depuis 2014 aussi ?
C'est ça.
D'accord.
Ouais.
Donc tu as commencé ici ?
Ouais.
D'accord. Tu es originaire d'ici ?
Je suis originaire de Belgique.
Ouais, tu as fait un long chemin pour faire de l'agriculture.
Ouais, je suis originaire des meilleures terres du monde.
Ah bon ? Je savais pas.
Et l'autre côté de la famille, c'est la Normandie, ce qui est pas mal non plus.
D'accord.
Et je suis tombé dans cette espèce de désert, là. Mm-hmm. Mais bon, c'est excitant, le désert.
Et donc, tout ce que tu produis, à qui le vends-tu ?
Je le vends localement, sur le marché de Sainte-Afrique.
En vente directe ?
En vente directe, ouais. Ce qu'on appelle vente directe, oui. Parfois, ça part un peu dans les boutiques, ou de plus en plus, il y a des AMAP qui se multiplient, enfin, des livraisons dans les environs, là, dans les villages alentours.
Donc, de ce que tu es en train de dire, là, je comprends aussi que tu as une conscience politique et écologique assez forte, assez marquée, qui guide quelque part ton action et ta façon d'entreprendre les choses.
Ben ouais, comment faire autrement
dans ce contexte ? Je sais pas.
Je pense que c'est un truc de génération, quoi. Enfin, c'est un truc de... Le premier problème ici, sur des terres très argileuses, c'est les excès d'eau. Bon, cette année, on n'a pas encore eu le phénomène... Mais les dernières années, on avait des mois de novembre et décembre.
Ouais, il pleuvait beaucoup.
Ouais, voilà, il tombait quasiment la moitié de la pluviométrie annuelle, quoi. En un mois et demi, deux mois. Et ça, c'est de la destruction. C'est une arme de destruction massive, quoi.
Ouais. C'est le lessivage des sols, comme on dit.
Et voilà, il y a un certain Yeomans, Perceval Yeomans, qui, dans les années 50, a inventé une technique qui est en train d'arriver en France. Nous, on a travaillé avec une certaine Marlène Vissac. Et bon, ils sont deux, hein. Il y a Franck Chevalier aussi, qui ramène ce savoir d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Californie.
Des pays anglo-saxons.
Ouais, plutôt des pays anglo-saxons, des pays hispanophones aussi. Enfin, bref, de partout où le désert se développe, où s'est développé à vitesse grand V, quoi. Et voilà, il s'agit vraiment de transformer le paysage, quoi. D'arrêter l'eau et de la faire pénétrer dans les sols. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant, quoi.
C'est sur ces travaux-là que tu t'inspires, plus ou moins pour...
Ouais, bah alors c'est carrément des formations qui ont lieu ici. Une première formation et puis on va continuer.
C'est-à-dire tu fais venir des gens de l'extérieur pour former d'autres paysans?
Ouais, enfin c'est auto-organisation paysanne quelque part.
D'accord. Et tu passes par un syndicat, par un groupement?
Ouais, là c'est un organisme de formation qui est vraiment spécialisé là-dedans.
Est-ce que tu en vis bien de ton travail d'agriculteur? Est-ce que tu n'as pas trop de crédit sur le dos?
Est-ce que j'en vis bien? Ouais, parce que c'est ça qui me fait triper, quoi. Ah. Enfin, je vois pas ce que je ferais d'autre, quoi. Enfin,
ah. Et tu as du temps pour toi?
Pas beaucoup, non.
Pas beaucoup.
Pas beaucoup. J'espère pouvoir m'en dégager, surtout que là, on est en train de poncer un gars qui a plusieurs. Parce que pour moi, l'agriculture est collectif, quoi. Et qu'on sera plus fort collectivement, quoi. Ce qui est déjà le cas. Hein.
T'es pas tout seul dans ta petite
ferme. C'est un moulin, hein. C'est un moulin d'abord.
C'est un beau métier. Tu le conseillerais, toi, à tes enfants?
J'ai pas d'enfants, mais conseillerais. Ouais, non, mais on a besoin de que des milliers de gens s'installent. Et que avant que ce soit un espèce de truc vichiste ou fascisant d'installation forcée, quoi. Parce que,
c'est pour mettre des colposes.
Oui, il y a des gens qui le pensent, ouais. Quand il n'y aura plus de pétrole pour. Il faut absolument que ce soit un mouvement, quoi. Quelque chose de pensé et de. Enfin, qui se fasse parce qu'il y a une volonté de le faire, quoi. Pas parce que les riches, ils auront plus à manger et qu'ils auront toujours besoin de l'armée des ombres, comme avait dit le récent ministre de l'Agriculture.
Ce beau métier-là, l'agriculture.
Ouais.
Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans? C'est la question que je pose à tout le monde. Certains ne veulent pas y répondre à cette question, ça va. Mais ce que j'entends souvent, c'est qu'il y a des fermes, les grosses, qui vont toujours grossir, des fermes de plus en plus grosses. Et à côté, des toutes petites fermes qui vont marcher pour le local et les intermédiaires risqueraient de disparaître.
Je sais pas, mais en fait, là, ce que souligne la pandémie, c'est que en face, ils s'organisent, quoi. Il y a un truc assez fou, j'ai pas l'article là, mais à mon avis, c'est moins enthousiaste que ça, quoi. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a un récent bouquin de Lucide Leclerc qui s'appelle « Au nom de la biosécurité ». En tout cas, c'est comme ça que s'appelle l'article dans le Monde diplomatique au mois de novembre, qui raconte un truc fou, mais vraiment fou, à l'opposé du bon sens, et peut-être du bon sens qui fait que tu énonces ça, quoi. C'est on a bien compris que la pandémie, elle aurait pas pu se développer sans la destruction de la biodiversité. Donc tout le monde se dirait « Ok, et il y en a qui l'ont dit, hein, il y en a qui ont dit, c'est même la fin de la ferme des mille vaches, c'est la fin de cette agriculture industrielle. »
L'agro-industrie.
Ouais, voilà. Ouais. Donc tout le monde se dit naturellement ça. Sauf que là, donc ce que développe Lucile Leclerc, c'est que c'est des textes qui émanent de la FAO, donc des Nations Unies, quoi. C'est plutôt poussé apparemment par les Chinois qui ont conçu un modèle d'élevage encore pire que celui qu'on connaît, donc encore pire que le modèle cochon breton, disons, mais avec l'aide de spécialistes bretons. C'est un élevage, c'est la catégorie 4, c'est un élevage où chaque cochon est confiné. dans une espèce de, d'immense usine sur plusieurs étages, où il y a des sas. Et elle, elle raconte, en tant que journaliste, elle a dû faire des quarantaines pour arriver jusque dans cette usine. Et le but, c'est qu'en cas de pandémie, ce type d'élevage, la catégorie 4, elle puisse continuer à vendre sans test, parce qu'on l'a, on la créditerait de, d'une biosécurité au niveau pandémique. Quoi.
D'accord, parce que l'isolement et tout ça.
Ouais, voilà. Et donc ça, c'est complètement contre, tu vois, la fable qu'on espérait. C'est-à-dire qu'au moins, il y ait développement de petites fermes, de petits élevages, de bio, avec de la biodiversité.
Remise en question
de la polyculture élevage, etc. Enfin, non. Ça, ça vise bien à détruire le petit élevage, parce que si t'as pas ce truc-là, bah tu peux plus vendre, on tue ton troupeau, etc. Et apparemment, j'ai pas encore trouvé de données là-dessus, mais il y aurait la même chose sur les semences. Un certificat pour les semences. Et tout ça a été pensé avant le Covid, hein. Pour en revenir à ta question, l'agriculture, elle dépendra de la lutte, quoi. Elle dépendra de rien d'autre, pour moi, que d'un changement total, c'est-à-dire une révolution. Enfin, il va falloir se défendre, ça va être défendre notre bouffe et notre santé, quoi.
Nos vies.
Nos vies, ouais. Mais c'est vraiment un espèce de truc, là, le truc de la pandémie. Tout le monde a regardé du mauvais côté, quoi. Enfin, et c'est ça qu'il faut, quoi. Enfin, il faut continuer à se battre contre la destruction du climat et cause de la pandémie, c'est exactement la même chose. Et en fait, il faut se battre contre les causes, quoi. Ouais, moi, je pense vraiment, c'est un truc qu'on va développer, l'agroécologie, c'est notre seule politique sanitaire, enfin, à l'échelle d'un peuple, quoi. C'est-à-dire à la fois pour combattre ce qui cause les pandémies, ce qui cause la destruction, la crise climatique, etc., etc., et à la fois pour nous soigner.
Qui consumera le vieux monde.
Ok.
Voilà, c'est bon. Donc là, tu vois, sur la colline, on a fait des ouvrages sur les courbes de niveau, plus ou moins.
Ah oui, là-haut, là, près de la forêt.
Ouais.
D'accord.
Pour empêcher l'eau de suivre son chemin, de dévaler les pentes et de tout emporter, quoi.
D'accord.
Et sur ces ouvrages qui sont des creux et des bosses, si tu veux, des petites buttes, en travers de la pente, on va planter des arbres.
D'accord, pour retenir l'eau, donc.
C'est eux qui vont vraiment faire pénétrer l'eau dans le sol, quoi. Et c'est vraiment la disparition des racines ligneuses, des racines d'arbres, qui fait que, il manque quelque chose au sol agricole, quoi.
Ouais.
On essaye vraiment, en fait. C'est une petite formule du couple Bourguignon, là, Lydie et Claude Bourguignon, qui dit faut retrouver un équilibre entre l'agro, la sylvo et le pastoralisme, quoi. Et bon, là, on en est un peu aux premières étapes, quoi. Remettre des arbres dans les champs, quoi.
D'accord.
Et là, avec une fonction, enfin plusieurs fonctions, mais en tout cas, d'empêcher l'eau de dévaler, parce que quand il n'y avait pas ça, avec des pluies comme il y a eu ce week-end, bah, tu avais de l'eau jusque-là, quoi. Elle part du dessus, et puis elle s'emballe et arrive dans le fond, et tu regardes, hein, tu regardes tous les champs aux alentours, tout le monde est à la même enseigne, c'est-à-dire que les bas des champs, y a des flaques, et c'est tout jaune. C'est ce qu'on appelle l'asphyxie racinaire, quoi. C'est aussi une autre cause de pollution dont on ne parle pas, c'est que l'eau qui dévale et qui fait que le dourdou et puis la sorgue deviennent tout rouges, c'est un énorme facteur de pollution, quoi. Et or, cette eau, après, en été, on la pleure, quoi, on l'a pas, quoi. Et du coup, cette technique, elle vise vraiment à la stocker dans le sol, quoi. Et pas la laisser dévaler et après qu'on doive la remettre avec des canons à eau qui utilisent des kilowatts qu'on peut plus se payer.
1, 2, 1, 2. Donc là, Guillaume va remettre du grain au moulin. Il est tout petit, le moulin. Donc ça, ce sont tes silos de stockage, là, en inox.
Ouais.
D'accord. Et c'est un petit moulin, c'est quoi ce genre de moulin là?
Alors ça c'est un moulin à meule de pierre. C'est le moulin traditionnel mais amélioré dans les années 80 par des gens qui étaient pas loin, hein, qui étaient à l'Essac dans les monts de la Côte.
D'accord.
Et qui étaient des éleveurs et qui voyaient bien que l'agriculture se cassait la gueule. Et eux, comme ils étaient aussi très mécanos, ils ont repris cette tradition-là qui était pas très vieille. Hein. Ça datait de l'occupation.
D'accord.
Tu vois, il y avait déjà, pendant l'occupation, dans les années 30, tu avais le moteur électrique multifonctionnel avec une courroie que tu mettais sur la baratte ou sur les trieurs ou sur la scie circulaire.
Ouais.
Et pendant l'occupation, il y avait nécessité de cacher la meunerie. Parce que sinon, c'était contingenté par les Allemands, par les occupants, quoi. Et donc, les paysans avaient inventé ce type de moulin. Une petite meule de pierre de 50, un moteur, une courroie, et voilà. Et les frères Astrier, dans les années 80, parce que haute situation de guerre, ont détruit l'agriculture, ils se sont dit, il faut diversifier, il faut refaire du pain et tout ça. Et ils ont repris ce moulin. Ils l'ont juste amélioré, c'est-à-dire que traditionnellement, les meules de pierre, elles étaient séparées par le flux de grain là, qui tombe là dans la nid. C'était le flux de grain, le tapis de grain qui séparait les meules. C'était pas top. Et eux, ils ont juste mis un ressort et une potence qui permet de régler la tournante et la gisante, la tournante qui est derrière ce cache là, de manière très précise. Et à faire une farine de qualité, parce que tu vois, ça chauffe pas, ça tombe doucement, au contraire des grosses meules qui faisaient 1,80 m. Et donc on respecte les qualités nutritionnelles. Il y a aussi tout un déroulé de la structure qui abîme pas la structure du grain, quoi. Et bon, ça là-dedans, c'est la puterie.
Grosse boîte.
C'est une boîte dans laquelle tu as un tamis qui était en soie avant et qui est en nylon maintenant.
D'accord.
Qui fait que tu sépares ta monture en deux. D'un côté, le son, l'enveloppe du grain,
ouais,
qui est proprement déroulée. Et de l'autre, la farine qui tombe dans le fond de la buterie et qui sort par cette vis.
D'accord. Et t'en produis combien de farine à peu près?
Combien je produis de farine?
Ouais.
Alors pour mon pain, j'en fais je sais pas moi, 120 kilos par semaine.
D'accord.
Et puis là je suis en plein. Bah je vends de plus en plus de la farine telle qu'elle.
D'accord. Et je t'ai pas posé la question, mais combien d'hectares à la ferme?
Là il y a 22.
22?
Ouais.
D'accord. Et combien sont utiles à la fois? Parce que je sais, il y a les rotations, il y a des moments où il faut faire des jachères, des trucs comme ça.
Ah ben tout, parce que...
Tout? En faisant des bonnes rotations?
Non, les jachères, ça c'est une vieille idée, ça.
Ouais, en fait, je sais, il y a des sols qu'on laisse se reposer, quoi.
Non.
Non?
Ah non, non, ça c'est une vieille idée.
Bon.
Plus de jachères... Parce que pour qu'une terre, pour qu'un sol soit vivant, il faut qu'elle soit toujours, toujours occupée, quoi. Tout, qu'il y ait toujours un couvert
végétal.
Un végétal, quoi, ouais. En tout cas. Peu importe ce que c'est, mais il faut que ce soit occupé, quoi. Jamais de. La jachère, c'était l'idée qu'en faisant rien, tu laissais reposer la terre, mais en fait, en faisant rien, tu fais rien, quoi. La terre se dégrade, quoi. Mm. Le sol se dégrade.
Donc les 22 hectares.
Ouais, les 22 hectares, voilà, ouais, c'est...
Et tu les as d'un seul tenant, ces 22 hectares?
Presque. J'ai 2 hectares à Moulin-Neuf.
Donc c'est à toi, ici?
Ouais.
T'es propriétaire?
Je suis propriétaire de 7 hectares seulement.
Ah, d'accord. Le reste, c'est du fermage?
Ouais, j'en loue aux voisins.
D'accord. Voilà, tu fais du compostage massif?
Ben, ça vient de la déchetterie de Saint-Aff, ouais.
Ah ouais?
C'est du gros là. Ouais.
C'est
pour lancer les lignes d'arbres là. C'est pour lancer les arbres là-haut.
Oh, comme ça fume.
Ouais, ça a déjà un peu composté. Ouais.
Dingue. Donc c'est vrai que c'est quand même assez pelé ici.
Et ben bah, ouais.
C'est parmi les rares endroits un peu plats, on va dire.
Ouais. Ben visiblement, ça a encore été déboisé récemment, quoi.
Ah ouais.
Enfin récemment.
Oui, il y a quelques dizaines d'années, quoi.
Ouais, voilà, ouais. Ah.
Ça coule bien.
3 litres seconde.
3 litres seconde, ouais. Quand même.
Mais c'est juste en hiver. Et donc cette eau, il faudrait la stocker dans les sols, quoi. Enfin, ouais. pas l'entièreté, parce que évidemment ça coule de toute la montagne, mais disons qu'on pourrait vraiment tout changer au niveau sécheresse et faire vraiment améliorer la pousse des arbres, par exemple, en été. Mmh. Voire même des cultures, parce que là, en été, à part la luzerne, ici, tu fais plus pousser grand-chose, quoi. Ouais. Le tournesol et tout ça, ça devient chaud, parce que il n'y a plus beaucoup d'eau, quoi. Et en fait, ce serait vraiment bien de pouvoir stocker l'eau, soit dans les sols, soit dans des bassins, mais pas des bassins comme ça a été fait dans les années 80 en fond de vallée. Mm. Qu'il faut rebalancer avec beaucoup d'énergie.
Il faut pomper. Hein.
Mais des bassins, comme cet Australien il avait inventé, en hauteur. Mmh. Et qui peuvent se diffuser de manière gravitaire, sans énergie, depuis le haut vers le bas.
Ouais,
quoi.
Sur des champs en contrebas, quoi.
Ouais, via justement le réseau racinaire des arbres.
C'est des fèves, ça?
Ouais.
D'accord.
Ça, c'est des fèves. Bon ben tout le monde connaît les fèves en frais que tu plantes soit en novembre, soit en février, quoi, février, et que tu récoltes
Pour éviter les pucerons aussi, c'est bien les fèves.
Ouais. Et que tu récoltes au printemps. Mais là c'est une autre démarche, ce serait de les faire, de les récolter et de les moissonner en sec, quoi.
D'accord.
Et comme base alimentaire de protéines végétales, quoi.
Pour les humains ou...
Ouais, pour les humains, ouais. Voilà, donc ça c'est de la fève, ça c'est un petit épeautre.
D'accord.
Le fameux petit épeautre.
Voilà.
Alors là tu vois c'est le bas de la parcelle, donc encore problème d'eau, il y a plein de rumex.
Ouais.
Le rumex c'est une plante qui décompacte les sols et donc en bas de champ, ils sont concentrés en bas de champ, ils font leur boulot de décompaction, quoi.
D'accord.
Et sinon, là, quand on grimpe un peu, le champ, il est propre, il y a que le petit épôtre.
D'accord. Ces petites herbes vertes, c'est du
petit épôtre. Ouais, c'est ces céréales-là.
D'accord.
Qui poussent pas très vite et qui, à un moment, fait une épiaison très tardive, c'est-à-dire que tu... le blé, il épie vers la mi-mars et le petit épôtre, lui, il va épier, je sais pas, au mois de mai, quoi.
D'accord.
Beaucoup plus tardivement. Ah. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Tu vois, tu te dis, merde, les mauvaises herbes prennent le dessus, tout. Puis à un moment, boum, le truc, il sort, mais à une rapidité, c'est incroyable.
Ce qui est cool, c'est de se balader dans les champs. Moi, je passe énormément de temps à me balader, quoi.
Ah.
Et avec plein de gens, quoi. Parce que voilà, il y a un collègue qui arrive, on va se balader, on va voir, voilà. On va voir ce qui se passe, on va voir la densité, on va voir comment ça pousse, on va voir nos essais d'association. Enfin, bah avec Sylvain, avec qui on va s'associer, il arrive, on va se balader, quoi.
D'accord.
Parce que lui, il a pas vu depuis une semaine, ou tu vois. Ouais. Parce que ces histoires de gestion de l'eau là, qui passent pas par l'institution, quoi. C'est plutôt un bureau d'études qui est spécialisé dans la permaculture,
ouais.
Et dont l'approche est vraiment contraire à ce qui se fait, quoi. Et ben, ce matin, j'ai eu un coup de téléphone de... Maintenant, il y a un syndicat de l'eau ici.
Oui.
Il y a un truc institutionnel. Hein.
Centafo,
non, pas ça. Je crois que c'est plutôt sur le Dourdou et le Rance, quoi. Vraiment spécifique.
D'accord.
À la rivière.
Ouais.
Et ils veulent. Ils ont vu passer la formation et ils veulent venir voir, quoi.
Ah, ils veulent se greffer ou ils veulent espionner?
Je sais pas. Non, je pense que c'est ça part d'une bonne volonté. Donc ça, c'est de la féerole.
D'accord. Effectivement, difficile de voir la différence avec la fève.
Ouais. Et ça, c'est incroyable comme plante. C'est vraiment incroyable comme apport d'azote, tu vois. La légumineuse, elle va chercher l'azote atmosphérique.
Ouais. Elle la refout dans le sol.
Et voilà. Et elle la refout dans le sol, ouais, sur un cycle assez court. Mmh. Et puis c'est intéressant parce que aussi tu peux la coucher. Là, vers la mi-mai, elle est haute comme ça. Tu peux la coucher, la rouler, et puis, par exemple, poser des patates dessus, repailler. Et alors là, t'as un truc d'une puissance...
T'as un engrais vert, en fait.
Ouais, un engrais vert, un couvert. Ça, là, elle est un peu sale, il y a de l'herbe, il y a toutes sortes de trucs.
Et puis ça le dit,
mais j'ai confiance, quoi. Elle est tellement puissante qu'elle va gérer cet enherbement, elle va tout pacifier et ça va être propre.
Donc en fait, ce que tu dis, c'est que quand elle est grande, tu récoltes.
Ouais.
Et une fois que tu as récolté, tu la fous par terre sans la couper?
Ça dépend. Je peux ne pas la récolter. Je peux m'en servir pour y mettre une autre culture, quoi.
D'accord.
Un couvert, quoi.
Ouais, ouais.
Je la couche et là, avec un semoir direct, je sème un tournesol, par exemple. Là, c'est peut-être ce que je vais faire l'année prochaine, je verrai.
Bon, mais en tout cas, merci Guillaume d'avoir pris le temps de...
Ouais, avec plaisir.
De nous recevoir.
Merci à Guillaume d'apporter du grain à une agriculture repensée et plus humaine. Retrouvez Parole Rurale en podcast sur le site de radiocentafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.